Il médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison.
Amen.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous parles. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu désires nous montrer à tous quelque chose. Donne-nous aussi nouvellement un cœur et des oreilles ouvertes pour ta parole. Nous voulons t'entendre, toi. Nous voulons te toucher dans ta parole, te boire, te manger. Amen. Je ne peux dire que merci au Seigneur que nous puissions être là et que nous ayons un temps pendant lequel nous nous avons aussi décidé comme de débrancher entre guillemets pas mal de choses et d'ouvrir les oreilles pour entendre la parole du Seigneur. Je remercie vraiment le Seigneur qui est toujours à nouveau une telle occasion et qui a encore aujourd'hui cette occasion. Louez le Seigneur. Et sa parole est vraiment précieuse. Ces derniers temps, toujours à nouveau, j'ai remarqué, j'ai toujours à nouveau eu la joie quand j'ai entendu quelque chose de sa parole, dans sa parole. Quand le Seigneur nous parle au travers de sa parole, c'est quelque chose de très spécial. Nous ne sommes pas là en premier lieu pour travailler, entre guillemets, un thème dans la Bible. Dans la dernière conférence, nous étions dans le début d'Apocalypse, thème suivant à la fin de l'Apocalypse, et ensuite nous réfléchissions qu'est-ce qu'on pourrait faire encore d'autre. Non, non. Nous voulons entendre. Et c'est ce que dit aussi l'Apocalypse. C'est ce que nous voulons entendre, c'est ce que l'Esprit dit. Et c'est quelque chose de très spécial quand l'Esprit commence à parler. Je pense que nous l'avons tous déjà expérimenté. Dans les petites choses et dans les grandes choses, Seigneur, le Seigneur nous montre quelque chose. Nous avons déjà tant lu ces versets, comme le frère l'a confirmé encore. L'Esprit, dans Apocalypse 22, a montré quelque chose à Jean. Comment pourrions-nous dire, avec nos paroles, le Seigneur nous a touchés, dirions-nous aujourd'hui. Le Seigneur a-t-il déjà touché quelque chose en nous ces jours-ci? Oui, je crois qu'il voudrait vraiment toucher quelque chose en nous, en ces jours-ci, qui nous ramène tellement, de manière tellement précise, vers l'arbre de vie et l'eau de la vie, c'est qu'il a une intention. Savez-vous, quand le Seigneur montre quelque chose, il ne le montre pas simplement pour nous impressionner, pour nous donner quelque chose de nouveau dans sa parole ou d'éclairer quelque chose dans sa parole, mais quand le Seigneur nous parle, c'est qu'il aimerait que ce qu'il dit se produise aussi. C'est ce que nous avons vu dans Genèse 1. Dans les réunions jusque-là. Dieu a créé cette terre, comment? Par sa parole. Il a dit une parole et la lumière fut. C'est puissant. Quand le Seigneur nous dit quelque chose, ça veut dire qu'il aimerait bien le voir s'accomplir dans nos vies. J'ai un verset qui m'est revenu très souvent ces derniers temps. Je vous le lis dans dans Deutéronome 32, et c'est quelque chose que Moïse a dit, ou prié plutôt, à la fin de sa vie. Donc, au verset 42, Deutéronome 32, verset 42. Non, c'est pas cette parole-là. Les 46. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie jusque-là. La parole de Dieu est grandiose, merveilleuse et puissante, et tout a existé par la parole. Et quand le Seigneur nous parle aujourd'hui dans sa parole, nous remarquons le Seigneur touche quelque chose là, alors nous pouvons être sûrs. Le Seigneur parle pour que le Seigneur opère quelque chose dans nos vies. Cette parole doit avoir un effet dans nos vies. Et c'est aussi mon désir pour cette conférence. Nous ne voulons pas seulement parler de la parole, mais c'est vraiment mon désir que cette parole entre dans ma vie. Que quelque chose se fasse par cette parole vivante. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace, est-il dit dans Hébreu. La parole de Dieu est vivante. Et j'ai cette impression, et pendant cette conférence, nous nous sommes réjouis beaucoup, ne serait-ce que dans les versets de Apocalypse 22. Et j'ai été surpris de voir à nouveau à quel point la parole est précieuse. Le Seigneur parfois met l'accent sur quelque chose. Il nous montre cette image dans Apocalypse 22 de l'arbre de la vie et du fleuve de l'eau de la vie. Et nous en avons déjà eu de la communion ce matin. Et de la communion aussi à quel point c'est précieux. Qu'aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes dans une époque où nous pouvons manger l'arbre de vie et boire l'eau de la vie. Oui, j'ai parfois cette impression que tout a déjà été dit, mais ce soir j'ai quand même cette hardiesse de le fortifier une nouvelle fois. Même si vous l'avez déjà entendu, il ne s'agit pas du nombre de fois où nous l'avons entendu, mais il s'agit du fait que le Seigneur a quelque chose sur son cœur. Le Seigneur a une parole qu'il aimerait rentrer dans ma vie, pas seulement dans ma tête, dans mes archives, non. Il voudrait l'amener dans notre vie, dans la vie de l'Église. Et ce qu'il dit, il le fait aussi. Dans le psaume 1, nous avons vu qu'il est aussi question d'un arbre là. Mais celui qui a lu de manière très précise, cela a beaucoup à voir avec nous. Ça a à voir avec notre marche, avec notre vie. Nous voyons là un arbre, mais il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est aussi comme un arbre, cet arbre-là, en relation avec l'arbre de vie. Ils sont quasiment inséparables. Et là, le Seigneur aimerait nous amener à ce point, et amener aussi son Église à ce point-là. Et c'est pendant ces dernières réunions, c'est devenu tellement précieux pour moi. On peut encore avoir de la communion à ce sujet-là. Aussi au sujet de cette image, qui est une image éternelle. Ce n'est pas seulement une image, mais Dieu commence le plan avec Dieu dans un jardin. C'est le meilleur endroit pour commencer quelque chose, dans un jardin. Et ce jardin est plein de joie. C'est un jardin plein de joie, le jardin d'Éden. Et au milieu de ce jardin se trouve l'arbre de la vie. En plein milieu, tout le jardin est centré autour de l'arbre de la vie. Autour de quoi est centrée ma vie chrétienne? Autour de moi, autour de mes problèmes, autour de mes soucis, ou tout ceci tourne-t-il autour de l'arbre de vie et du fleuve de la vie? Le Seigneur aimerait nous amener à ceci. C'est aussi une croissance que le Seigneur aimerait produire en nous, dans notre vie et dans l'Église qu'il est en train de bâtir. Que tout se retrouve à l'arbre de la vie et au fleuve d'eau de la vie. L'Esprit et l'arbre de vie sont les points centraux de la vie d'Église, de l'Église. De même que l'arbre de vie est au centre du jardin, ce n'est pas un jardin à thème. Ici, un coin pour cette direction, là, un autre endroit pour tel goût, et là derrière, il y a un autre coin avec l'arbre de vie. Celui qui aime bien le contempler, qu'il aille là-bas. Le jardin est centré sur l'arbre de la vie. Nous voyons deux arbres, en fait. Il y a aussi un autre arbre. En fait, tout tourne autour de notre décision. Dans le plan de Dieu, nous avons notre décision. C'est vraiment central, notre décision pour la vie. Et cela ne change pas. Et cela ne changera jamais. C'est pour ça que cet arbre est, comme nous l'avons entendu, cet arbre passe au travers de tous les siècles, au travers de tous les temps, comme un fil rouge au travers de toute la Bible, ainsi que le fait de manger et de boire de l'arbre de la vie se retrouve dans toute l'Écriture jusqu'à la fin. Et quand nous voyons cette image ici dans Apocalypse 22, mon impression, ou plutôt, j'ai le désir, Seigneur, moi aussi j'aimerais être là. Là, le plan de Dieu s'accomplit. La nouvelle Jérusalem vient sur la terre. Ce que Dieu a préparé il y a des millénaires, là, c'est effectif, c'est terminé. Et là se trouve l'arbre de la vie et le fleuve d'eau de la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est bon que nous regardions, que nous soyons là où est l'arbre de la vie, que nous le gardions que nous le regardions. Nous sommes sur un chemin. Le chemin n'est pas toujours si simple. Le chemin avec le Seigneur n'est pas un chemin large. Et la parole le confirme dans Matthieu 7. Je ne vais pas le lire maintenant, mais le chemin est large qui mène à la perdition. Mais le chemin qui mène à la vie est souvent étroit. Donc il est bon qu'aujourd'hui nous fassions attention, que nous soyons toujours en relation avec l'arbre de la vie. Amen. Ouais, dans notre vie de tous les jours, c'est vraiment mon fardeau. J'aimerais rester en relation avec le Seigneur lui-même. J'aimerais être quelqu'un qui a l'habitude de manger de l'arbre de vie. Je pense que si nous gardons cela, alors nous avons, comment est-ce qu'on peut le dire, la base principale pour que nous soyons à la fin là où le Seigneur aimerait que nous soyons. Si nous buvons aujourd'hui du fleuve d'eau de la vie, comment nous y approcher et que nous le fassions, que nous buvions de l'eau de la vie, où serons-nous quand le Seigneur reviendra sur cette terre? Quand le Seigneur accomplira son témoignage, alors le Seigneur nous prendra aussi. Nous sommes déjà là-dedans aujourd'hui. Et quand nous persévérons ici, nous avons les meilleures conditions pour atteindre également le but. C'est tellement merveilleux que nous ayons un chemin. Il y a un seul chemin dans cette ville. J'aimerais revoir ce point dans Apocalypse 22. D'abord, dans Apocalypse 21, la ville est décrite. Des perles, les portes comme des perles, des pierres précieuses. Et dans cette ville, il n'y a qu'une seule route. Cher, prends le chemin que tu veux, ou la route que tu veux, avec tel ou tel nom à Berlin. Pour chaque personnage important, il y a une rue avec son nom. Dans la Nouvelle Jérusalem, il y a une route. Et cette route, et sur cette route, se situe le fleuve d'eau de la vie. Si nous voulons marcher sur cette route, il nous faut trouver le fleuve de vie.
Dire
que si nous avons goûté le Seigneur une seule fois et que nous nous sommes réjouis une fois du Seigneur, ça ne veut pas dire que tout sera alors, tout ira bien et que tous les problèmes sont mis de côté. Non, non, ce n'est pas ainsi. Non, c'est un fleuve qui devient toujours plus profond, comme nous l'avons déjà vu. Et c'est une vie qui doit grandir, qui voudrait grandir en nous, comme nous l'avons vu ce matin. Notre Dieu est un Dieu de vie. Notre Dieu est vivant. C'est le Dieu vivant. Qui peut dire cela? Entre guillemets. Quel Dieu est vivant? Sauf le Dieu vivant. Et il n'y en a qu'un seul. Et ce Dieu vivant. Et nous a rendus, nous aussi, vivants. Je pense que nous avons aussi besoin de nous souvenir de que nous avons été rendus vivants dans notre esprit. Quand nous avons accepté, pris en nous le Fils de Dieu, ce Fils de Dieu vivant, une nouvelle vie a commencé en nous. Une nouvelle vie a commencé en moi, en vous tous. Vous tous qui avez accepté le Seigneur. Là, Christ a commencé à vivre en vous. Je ne voudrais pas lire tous les versets. Ça ne suffirait pas au niveau du temps non plus. Mais le Seigneur le dit à Nicodème dans l'évangile de Jean qu'il faut absolument, s'il veut rentrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il soit né de nouveau. C'est dans Jean 3. Jésus le dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Et cela s'est passé quand nous avons accepté le Seigneur. Une nouvelle vie est amenée en existence et confirmée par le baptême. Que celui qui ne s'est pas encore fait baptiser, qu'il fasse le pas. C'est un début, c'est une naissance. Une nouvelle vie entre en moi, entre en toi, entre en nous. À ce moment-là, et c'est tellement magnifique, la vie est connue. Pourquoi? Parce que nous sommes assis ici avec notre corps et nous sommes vivants, sinon nous ne serions pas là. Et nous savons ce que ça veut dire, vivre en tant qu'homme. Mais savons-nous aussi, sommes-nous conscients que cette vie de Christ, l'Esprit en nous, a aussi des besoins de vie. Le Seigneur qui vit en nous aimerait aussi croître. Il aimerait se répandre. Il n'aimerait pas que tout reste semblable comme c'est au début. Il aimerait atteindre un but. C'est pour ça que nous lisons dans Apocalypse 22, le Seigneur aimerait croître en nous tous et amener quelque chose de merveilleux en existence. Et pour cela, la vie du Seigneur en nous a besoin d'approvisionnement. C'est vraiment nécessaire. Je pense que vous ne serez pas étonnés en entendant que je vous dis, frères et sœurs, il faut que vous vous nourrissiez. Cela ne surprend personne. Oui, vous devez dormir, vous devez bouger. Nous devons, je m'inclus, nous devons manger. C'est pour nous tous tellement normal parce que nous vivons dans ce corps et que nous le faisons depuis des années. Parfois, j'ai l'impression que pour notre vie spirituelle, cela ne nous est pas toujours conscient. Là, il y a aussi une vie qui a besoin d'être nourrie. Elle demande de la nourriture, comme un petit bébé, et soupire après la nourriture. Il en est de même de l'esprit en nous. Il est souvent tellement affamé. Et maintenant, et la question est la suivante, est-ce que nous le remarquons? Et est-ce que nous réagissons face à cela? Parce que je pense que nous devons le faire. Et regagner ce fait de manger de manière spirituelle. Et nous le faut, il faut le redécouvrir. Si le Seigneur nous montre de manière tellement précise et nette l'arbre de vie, comment devrait-il le montrer de manière encore plus précise? L'arbre de vie. Il y a des fruits. Qu'en faisons-nous? Oui. À quel point le Seigneur doit-il nous simplifier encore? Je pense que le Seigneur veut vraiment gagner quelque chose. Mange de l'arbre de la vie. Bois de l'eau de la vie. C'est simple. Et c'est aussi nécessaire. Ce n'est pas une exigence. Ah, je dois manger maintenant. Dans notre vie humaine, nous ne le connaissons pas. Nous avons faim, c'est une joie de manger. Et cette joie, le Seigneur aimerait. Et c'est aussi mon impression que nous devons regagner cela. Si nous connaissons le Seigneur depuis longtemps, ou que nous connaissons la vie d'Église depuis longtemps, et que nous avons aussi déjà parlé de l'arbre de vie, avoir la communion concernant l'arbre de vie, concernant Christ en tant que la nourriture, il ne s'agit pas de cela. Que nous soyons jeunes dans la foi, ou que nous soyons tout juste nés de nouveau dans le sens spirituel, c'est la même chose pour tous. Tous ont le même besoin. Tous ont le même besoin. Je ne voudrais pas le formuler de manière négative, mais il y a une nécessité pour nous les croyants que nous nous nourrissions spirituellement, que nous chérissions cette vie en nous et que nous la laissions croître, afin qu'il y ait aussi quelque chose d'efficace qui rejaillisse. Jésus était sur cette terre, nous l'avons vu, et il a exprimé le Dieu vivant. Là où il était, il a œuvré. Peut-être qu'il n'a dit qu'une petite chose, ou parfois il n'a rien dit du tout, mais il y avait là une puissance. Une femme est malade, il suffit simplement qu'elle touche le bas de son manteau et elle guérit. Et il dit là, une force est sortie de moi. La vie du Seigneur est tellement puissante. Quand nous la laissons s'approcher de nous, elle peut s'épanouir aussi, cette vie. Quand nous la mangeons, quand nous mangeons le Seigneur le dit dans Jean 6 au verset 35, nous l'avons lu avant. Je vous recommande de relire les chapitres 4, 5, 6 et 7 de l'Évangile de Jean. C'est vraiment précieux. C'est vraiment un festin. C'est vraiment comme une table dressée, pleine de mets succulents. Il nous faut aller à cette table. Jésus, dans Jean 6, 35, dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Jésus ne vient pas et dit, je vous donne du pain. Ou je vous explique ceci ou cela. Non, il dit, je suis. Il se met là et dit, je suis le pain de vie, mangez-moi. Et il le dit, et il le redit. Et plusieurs fois, je suis toujours à nouveau étonné du fait que le Seigneur dise, tu dois me manger. Il est très court ce verset, il redit au verset 4, je suis le pain de vie. Il dit, vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang. Les Juifs n'ont pas compris ce qu'il a dit. Et ce n'est pas non plus facile à comprendre pour notre intelligence humaine. Nous ne pouvons pas. Ils ont dit, mais comment est-ce qu'on peut te manger? Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas de manière extérieure. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous montre toujours à nouveau cette vérité. Je suis le pain de vie. Nous voyons à l'arbre de vie un fruit. Et là aussi, ceci nous montre qu'il s'agit de manger Jésus-Christ. Manger Jésus-Christ. Peut-être que nous avons déjà un concept concernant la manière dont cela se produit. Ici, les Juifs n'avaient aucune représentation, aucun concept. Ils se sont même éloignés de Jésus parce que la parole était trop dure. Et nous avons le choix. Quand le Seigneur nous dit « mange-moi », on peut dire « ok, est-ce que j'essaye ou est-ce que je m'en vais ?» Je pense que nous faisons bon d'essayer de le manger. Et même si nous l'avons déjà essayé, il est bon pour tous ceux qui pensent maintenant, oui, je sais déjà ce que ça veut dire manger le Seigneur. Oui, moi aussi, je sais ce que ça veut dire prendre le petit déjeuner. Je sais ce que ça veut dire mettre du beurre sur un bon petit pain. Mais chaque matin, je le refais. Demain matin, j'en aurai besoin. Après-demain aussi, j'en aurai besoin. Et de la même manière, nous avons besoin du Seigneur en tant que notre nourriture. Aujourd'hui, demain et jusque dans l'éternité, cet arbre de vie sera là. cela ne changera pas. Je n'ai pas de concept comment ce sera dans l'éternité future, de manière précise, et ce n'est pas non plus notre devoir de comprendre aujourd'hui. Il est important de manger le Seigneur aujourd'hui. Et simplement, j'aimerais aussi parler un peu de l'expérience et peut-être aussi donner un peu d'aide à chacun de nous pour que nous soyons conscients à quel point c'est simple et combien c'est bon, combien c'est beau et combien cela nous ravit de manger le Seigneur Jésus parce que nous avons déjà tout reçu. Nous n'avons pas besoin de planter l'arbre de vie. Nous n'avons pas besoin de libérer le fleuve de vie. Il est libéré. Et l'arbre de vie est déjà là. Il suffit simple de venir à lui. Et quand il s'agit de nourriture dans la parole, je dois penser à Matthieu 4. Le Seigneur était dans le désert et n'a rien mangé. L'estomac sûrement dû grouiller. Grondé. Et il était dans le désert et l'ennemi l'a tenté. Voilà, c'est vraiment rusé. Tu n'as pas mangé depuis longtemps, tu n'as pas bu et tac, l'ennemi vient. Tu oublies de manger spirituellement et alors, subitement, l'ennemi vient. L'ennemi le voit. L'ennemi voit notre nourriture spirituelle. L'ennemi de Dieu observe comment nous nous nourrissons spirituellement. Et quand nous sommes sous-nourris spirituellement, il attend jusqu'à ce qu'il y ait une situation. Et alors il vient, et même il tente le Seigneur. Et ce que dit le Seigneur dans Matthieu 4, verset 4, il est dit, donc Satan lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ce serait pas mal, ça. Il n'a rien mangé, il y a des pierres. Jésus a la toute-puissance. Ah ben, transforme-les en pain. Le Seigneur aurait pu le faire. Regarde ce que je peux faire. Mais le Seigneur est tellement sage. Même dans cette écriture, c'est clair. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu est du pain pour notre homme intérieur. La parole, toute la parole de Dieu est pleine de nourriture. La parole de Dieu est aussi pleine d'histoire, de choses précieuses, parce que nous voyons le plan, la sagesse de Dieu, le futur, les choses qui se sont déjà accomplies. La parole de Dieu contient aussi de bons enseignements, beaucoup de conseils pour la vie. Il y a beaucoup de bonnes choses dans la parole de Dieu. Mais la base pour tout cela, pour notre vie spirituelle, est que nous connaissions cette parole en tant que nourriture. Si nous ne la connaissons pas en tant que notre nourriture, alors l'ennemi a beaucoup de possibilités. Toutes les portes sont ouvertes. Le diable utilise aussi la parole. La parole est bonne et juste et vraie, mais nous devons la prendre en tant que nourriture. Nous devons y connaître le Seigneur Jésus-Christ et le toucher dans cette nourriture en tant que vie et esprit. Dans Jean 6, 63, c'est écrit. C'est montré. Jean 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si c'est le Seigneur qui parle, si nous touchons le Seigneur dans sa parole, alors nous touchons quelque chose d'autre que simplement des paroles. Alors nous touchons l'esprit et la vie. Nous touchons quelque chose de l'arbre de la vie. Nous touchons quelque chose de fruit qui pousse là. Le fruit de l'esprit. Savoir avec l'esprit. C'est l'esprit. Pour lequel nous avons besoin d'avoir Mais pour sentir cet esprit, nous avons aussi un désir. Seigneur, j'aimerais te toucher. J'aimerais venir à toi. Le Seigneur nous dit aussi toujours dans Jean 5, aux pharisiens, il leur dit, donc Jean 5, au verset 39, il dit, « Où sondez les Écritures ?» C'est bon de sonder les Écritures. Nous les sondons-nous, nous aussi. Oui, il est bon de sonder les Écritures. Il y a beaucoup à sonder, à découvrir. Mais il dit ici, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais, pardon, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi. C'est peut-être quelque chose que nous avons déjà entendu souvent. Je l'ai entendu souvent. Mais j'ai l'impression que j'en ai besoin. J'ai besoin qu'on me le rappelle. Le Seigneur vient à moi. Et venons à lui. Venons à lui. Venir à lui. La parole est une nourriture tellement merveilleuse pour nous. Le Seigneur nous a donné la nourriture il y a des siècles et des millénaires. Et il dit, des hommes poussés par l'Esprit ont dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est remplie de l'Esprit. Il y a tellement de nourriture. Donc, nous avons besoin maintenant la bonne attitude quand nous venons à la parole, c'est-à-dire une attitude centrée sur Jésus-Christ. Quand nous venons à la parole, dis au Seigneur, Seigneur Jésus, je viens maintenant à toi. J'aimerais manger quelque chose. J'aimerais essayer. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Maintenant, j'aimerais venir à toi, Seigneur. Je viens à toi. Je lis la parole avec toi maintenant. Lis avec moi, s'il te plaît. Je ne suis pas si seul ici. Je lis avec toi. J'aimerais te toucher dans ces paroles. Alors, nous avons atteint la chose principale. Nous sommes dans l'Esprit qui donne la vie. Aussi, quand nous nous rassemblons, nous ne venons pas simplement dans une réunion. Oui, je vais le dimanche dans une réunion. Ou dans l'église, ou à on peut le barrer de notre vocabulaire. Nous venons à lui. Nous venons ensemble à Jésus. Nous ne venons pas seulement pour regarder ce qui se passe, mais nous venons activement à lui. Quand je suis invité chez Emmanuel pour le repas, si je veux pouvoir manger quelque chose de sa nourriture, la première chose que je dois faire, je ne peux pas prendre la nourriture par Skype ou Zoom. Non, je dois aller chez lui. Si moi je reste dans mes quatre murs, je ne peux pas manger sa nourriture. Je dois venir jusqu'à lui. Je dois m'installer à sa table. Ce n'est pas possible autrement. Le Seigneur a créé notre corps extérieur, un peu comme notre être intérieur. Extérieurement et intérieurement, nous devons venir au Seigneur. Et c'est aussi une habitude essentielle de venir à la parole en venant à Jésus. Je l'ai marqué ici, une bonne habitude. Nous avons besoin de cette habitude. Ouais, je l'ai remarqué ces derniers temps aussi. Sans cette habitude, ça ne va pas. Qui n'a pas l'habitude de manger? Je parle physiquement. Qui n'a pas l'habitude de manger physiquement chaque jour? Oui, l'un mange deux fois, l'autre trois fois. Les heures de repas varient, les goûts varient. Mais nous avons l'habitude de manger parce que nous savons que nous en avons besoin. Et nous avons aussi besoin de l'habitude de prendre la parole, de séparer du temps pour prendre la parole. J'ai lu, nous les Allemands, j'ai lu récemment, il était question du peuple allemand, en moyenne, chaque Allemand utilise 1h43 minutes pour manger. Donc en moyenne, nous prenons ce temps-ci pour manger. Dans d'autres cultures, on prend d'ailleurs beaucoup plus de temps. En Europe du Sud, ce n'est qu'un entremets, les 1h43. Nous étions récemment dans un restaurant italien. L'atmosphère était claire. Il y a du temps pour manger. Alors, que voudriez-vous encore? On avait l'entrée. Et il y a encore ci, et encore ça, et encore un autre souhait. Oui, oui. Nous, on se réjouit de cela, de prendre du plaisir à manger. Et l'être humain est créé ainsi. Et notre être intérieur aussi est prévu pour ceci. Nous avons besoin du temps personnellement. Il nous faut aussi manger individuellement. Mais manger à plusieurs, c'est beaucoup mieux. Et l'appétit, le repas nous convient beaucoup mieux quand on mange à plusieurs. Récemment, nous, avec ma femme, nous avons dit, allez, il faudrait de nouveau, il serait possible que chaque matin, nous puissions lire ensemble dans la parole. Oui, et c'est vraiment un gain. Ce n'est pas une grande chose, mais c'est une habitude qui apporte tant de fruits. Et nous avons besoin de cette habitude. J'aimerais aussi le comparer avec notre repas physique. Quand je suis invité chez Manuel pour manger chez lui, et je ne voulais pas m'inviter chez toi, mais j'aime bien passer chez toi. Il faudra voir quand. Bon, on en reparlera plus tard. Donc, que voulais-je dire? Donc, quand je suis invité à prendre un petit déjeuner, il y a généralement, il y a sûrement un panier plein de petits pains. J'aime bien manger des petits pains au seigle, si j'ai bien compris. Ouais, donc il y a un panier avec des petits pains. Il y a des jolis petits pains ronds et pleins. Et Jésus en a aussi donné à son peuple à l'époque dans Exode, le pain du ciel qu'on pouvait saisir, petit, fin, qu'on puisse saisir facilement. Mais comment est-ce qu'on peut le manger? Comment pouvons-nous trouver cette nourriture? Il nous faut la saisir. Il ne faut pas nous retenir. D'un point de vue spirituel, mon expérience est que j'ai des concepts qui m'empêchent de saisir la parole, qui m'empêchent de prendre ce que le Seigneur me donne dans sa parole. Le verset dans Apocalypse 22, je l'ai lu souvent et savez-vous ce qui m'aide énormément? Comment la parole m'aide? Quand je rajoute un peu de foi. Il le dit aussi dans Hébreux 4, verset 2. La parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de rien parce qu'ils ne l'avaient pas mélangée à de la foi. C'est important que nous mélangions la parole avec la foi. Pas seulement le mélanger avec des pensées. Non, il est bon d'entendre la parole. Oui, c'est bon quand nous venons à la réunion d'entendre la parole, mais ne faire que l'écouter, c'est une chose. Quand je suis assis chez Manuel et je ne fais qu'entendre ou sentir comment sentent bon les petits, je peux me réjouir de cela, mais il faut que je les saisisse, il faut que je les prenne. Et ça, c'est la foi. La foi, c'est le fait de saisir. Je fais ceci, je prends ce verset comme mon verset. Sinon, il reste là. Sinon, le petit pain reste dans son panier. Et à la fin, c'est encore un autre qui prend ce petit pain. C'est très bien pour lui. Mais moi, je sors avec l'estomac vide. Nous avons besoin, frères et sœurs, de foi. Et cette foi, ou dit autrement, nous n'avons pas besoin d'avoir une fausse retenue. Mélanger la parole avec la foi est simple. Nous pouvons simplement dire au Seigneur, « Seigneur, je te crois. Je crois que ce verset est pour moi aujourd'hui. » Nous avons lu dans Apocalypse 22, le verset 1, « Et je vis. » Le Seigneur m'a montré. Nous pouvons commencer. « Seigneur, oui, je te crois. Tu veux aussi me montrer quelque chose. » Nous pouvons commencer ainsi pour prendre la parole avec le Seigneur. C'est mon expérience. cela fait une différence. C'est quelque chose de différent que de simplement écouter, de penser au sujet de ce qui a été dit, peut-être de raisonner sur ce qui a été dit. Oh ben, c'est peut-être mal dit, ou ça aurait pu être formulé mieux. N'a-t-il pas dit de trop? Ou pourquoi ne dit-il rien? Ou bien pourquoi déjà de nouveau cela? Non. Il nous faut simplement saisir. Dans l'Église, il y a la place pour l'exercice de la foi. Et j'aimerais spécialement le dire aux jeunes. Oui, faites comme avec le petit déjeuner. Je pars du fait que tous, vous êtes tous en pleine croissance, vous avez terminé la croissance, mais je déduis de ceci que vous mangez et que vous prenez le petit déjeuner et que vous prenez les petits pains. Un petit enfant, un bébé, oui, parfois au début, il faut encore lui donner la bouillie, il faut ouvrir le petit pain, couper des petits morceaux. Mais nous ne voulons pas rester des enfants dans la foi. Nous ne voulons pas attendre jusqu'à ce que quelqu'un nous serve quelque chose et ensuite voir si cela nous convient. Non, toi-même, mets-toi en route. Cherche la nourriture. Jérémie dit, les paroles se sont trouvées. Cherche la parole. Aussi dans la réunion, c'est un domaine où on peut vraiment s'exercer. C'est comme le peuple d'Israël dans le désert. Le matin, il devait sortir et partout, il y avait de la manne. Partout. On ne va pas lire les versets. S'il y aurait trop de choses. Non, tout était là. J'ai souvent l'impression que dans les réunions, quand nous retrouvons, il y a partout, il y a la parole. Partout. Il y a les Bibles qui sont là, mais ce n'est qu'une chose, cela. Nous devons ouvrir nos oreilles et nous disons la parole les uns aux autres. Et il est aussi bon de saisir cette parole. Oui, saisis-la. Exprime-la aussi. Dis-la. Parfois, je me dis, oui, je dois le mélanger avec la foi, mais j'ai pas de foi. Ça, de la part du Seigneur, c'est très bien de la part du Seigneur. Il faut juste que je le raconte. Il nous a donné une foi précieuse à chacun de nous. Une foi de même prix. De même, qui est précieuse. Il nous a donné la parole. Qu'est-ce qu'il nous a donné encore? Romains 10. Comment commence la foi? Romains 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Quand nous entendons, la foi commence. Et là, il y a un petit truc. Nous avons aussi une bouche. Pour manger, il nous faut la bouche. Sinon, cela ne rentre pas en nous. Et il en est de même dans le domaine spirituel. Nous avons une bouche. Et dans Romains 10, au verset 9, il est dit, Romains 10, verset 8, que dit la parole? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole doit être dans notre bouche. Elle est conservée là, dans le livre, mais elle a besoin de passer dans ma bouche. C'est l'endroit où elle doit être. Et quand nous disons cette parole, ça a été dit de manière très sage de la part de Dieu, cela sort de notre bouche et ça re-rentre dans notre oreille. Nous pouvons nous-mêmes fortifier notre foi. Parfois, ce sont les frères et sœurs autour de nous qui fortifient notre foi, mais souvent, c'est nous-mêmes. Dis la parole, parle-la, proclame-la, lis ou simplement lis-la. Lis-la à haute voix. Tu verras la différence. C'est exactement le moment où nous prenons le petit pain et nous le mettons dans la bouche. Et ce qui se passe à ce moment-là, et je pense que c'est notre expérience à nous tous, et ça doit être notre expérience, ça doit la rester et la devenir encore plus, et soudainement, quelque chose, un goût vient dans notre bouche. Nous ne pouvons goûter que dans notre bouche. Avec les mains ou pas, avec les pensées. J'ai besoin de ma bouche. Et ainsi en est-il. C'est aussi dans mon expérience. elle, nous, la parole est bonne. Mélange la parole avec la foi. Prie simplement. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Comment je pourrais prier cela? Quand nous ne savons pas comment prier, nous disons simplement, nous prions la parole. C'est la meilleure des prières. Et cela nous rassasie. Cela nous donne la nourriture pour notre homme intérieur, pour qu'il puisse grandir. Et ce goût est formé en nous. D'un coup, je me réjouis. Ah, je sens que goûter le Seigneur est bon. Oui, les psalmistes ont déjà expérimenté. La parole, un bon goût. Quand je remarque que des personnes qui ont vécu il y a des siècles et qui disent par exemple au psaume 19, je ne vais pas tout lire, mais il parle de la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel. Ah, la loi. La loi, c'est pas tellement positif pour moi. On a beaucoup de livres de loi chez nous à la maison à cause de certaines raisons. Ce sont vraiment des pavés avec plein de lettres de paragraphes. Mais la loi de l'Éternel est plus précieuse que beaucoup d'or. La parole est douce. Je peux vous le confirmer. Le Seigneur est bon. Nous l'avons lu dans 1 Pierre. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, je suis désolée, mais je ne peux pas goûter à votre place. Non, je ne peux pas vous l'éclairer comment cela sent bon, comment cela a un bon goût. Mais ce n'est pas possible non plus avec la nourriture. Oui, tu peux le décrire, il y a différentes nuances. Mais c'est assez fade. Ce n'est pas la réalité. Mais il nous faut goûter personnellement. Et quand nous avons goûté à quel point le Seigneur est bon, alors nous ne voulons plus rien d'autre. Nous ne voulons pas des exhausteurs de goût. J'ai l'impression qu'autour de nous, il y a tellement d'exhausteurs de goût. Quand quelque chose est un peu fade, elle n'apporte rien. Et que ça laisse paraître que c'est tellement bon. Ou alors tu peux avoir comme une poudre blanche que tu mets sur le repas. Et tout d'un coup, le repas sent n'importe quoi, plein de choses. Mais quand je mange toujours seulement ces exhausteurs de goût, ce n'est pas tellement sain. Mais ensuite, je n'ai plus de goût pour ce qui est vrai, pour ce qui est véritable. Il est bon que nous recevions ce goût du Seigneur, plus doux que le miel. Et ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas... Quand nous disons manger le Seigneur, ça ne veut pas dire que c'est une forme, non, pas refaire ce que font les frères et sœurs. Non, ça aussi, ce ne serait qu'un exhausteur de goût. Ce ne serait comme si tu mangeais du chewing-gum. Ouais. Faire ce que font les autres. Non, nous voulons le Seigneur Jésus lui-même. Et quand nous l'avons goûté, lui, nous savons que nous le voulons demain de nouveau. Et cela a une influence sur notre vie. Et c'est aussi ce que je voulais dire pour la fin. Quand nous mangeons vraiment le Seigneur, alors ce n'est pas seulement, ce n'est pas une méthode que nous pratiquons dans la vie d'Église, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui nous fait parler à voix forte, ça s'entend tellement bien quand tout le monde le fait, il y a une atmosphère un peu spéciale. Non, il ne s'agit absolument pas de ça. Il est question que nous prenions le Seigneur en nous, que cette parole de vie, cet arbre de vie, que nous l'expérimentions en tant que notre nourriture, qu'il devient une partie de nous. Et ceci va nous transformer. Quand de manière constante nous mangeons le Seigneur dans sa parole, cela fait une différence aussi dans notre vie, dans notre manière de penser, comment nous nous comportons. Le Seigneur dit dans Jean 6, au verset 57, celui qui me mange vivra par moi. Le Seigneur aimerait que nous vivions par lui. On le verra encore. Il voudrait nous inclure dans son plan. Nous le verrons dans Apocalypse 22. Il veut nous inclure en tant que ses serviteurs. Il nous a aussi donné une responsabilité pour son dessein, qu'il puisse l'accomplir, son dessein. Ça veut dire que cette nourriture doit changer quelque chose en nous, si bien que le Seigneur est exprimé à la fin. Et même ce que nous faisons, quand nous parlons, quand nous témoignons du Seigneur, cela aussi nous nourrira ou nous nourrit. Le Seigneur a parlé à une Samaritaine, il lui a simplement témoigné que de lui coule l'eau de vie, qu'il y a une source, elle cherchait l'eau à la source, et lui, il parle de l'Esprit, qui coule comme une source. Et après, les disciples lui posent la question, tu n'as encore rien mangé? Et dans Jean 4, au verset 32, il nous dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et au verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça, c'est le résultat de la nourriture. Ça ne veut pas dire, je le répète, que de temps en temps, nous devons manger la parole et alors tout sera bien. Non, il ne s'agit pas de cela. Cette nourriture est quelque chose qui va changer de manière constante quelque chose en nous et qui va amener cette expression aussi en relation avec l'Église. Le Seigneur dit, il accomplira son œuvre. Le Seigneur aimerait aussi accomplir son œuvre. La Nouvelle Jérusalem, la ville, il va l'accomplir. C'est pour ça qu'il est aussi important que nous, dans l'Église, dans la vie de l'Église, nous connaissions cette nourriture et que nous la mangeons régulièrement, que nous nous en réjouissions régulièrement. C'est une joie et un gain. Et cette nourriture sera toujours suffisante. On n'a pas besoin d'avoir peur qu'elle devienne insuffisante. Il y en aura toujours plus. Et j'ai écrit un verset dans Malachie où il est dit, apportez la nourriture dans ma maison. Parle la parole, dis la parole. Dis cette foi, dis l'esprit qui est en toi, que tu expérimentes. Et cela apportera une richesse dans la maison. Et cela a à voir avec le témoignage de Dieu. Cela rend le témoignage de Dieu frais et vivant. Amen. Il est déjà tard. Et j'ai ensuite le point C, boire au fleuve d'eau de la vie. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais simplement dire, le Seigneur est équilibré. Il y a le fait de manger et le fait de boire. Boire, c'est encore plus simplement. Et nécessaire. C'est tellement nécessaire de boire. Boire toujours à nouveau. Et cela nous guérit, comme nous le voyons dans Ézéchiel 47, ce fleuve d'eau de la vie, partout où il allait, tout devenait sain, S-A-I-N. Tout guérissait. Il y a beaucoup d'eau salée, il y a de l'eau de mer, l'eau salée n'est pas à boire. Oui, parfois aussi, nos expériences sont un peu salées, il y a un peu ci, un peu ça. Alors, il est temps de boire, d'invoquer le nom du Seigneur. C'est une clé que j'ai expérimentée. Je ne peux pas dire autrement. Ouvre ta bouche simplement et dis, Seigneur Jésus, c'est le calice, la coupe du salut. J'élèverai le coupe du salut et invoquerai le nom du Seigneur. Et alors quelque chose s'écoule et quelque chose guérit. Et notre manière de penser guérit. Et nous pouvons le faire régulièrement, plusieurs fois, des centaines de fois chaque jour. Il y a même un chant qui le dit. J'invoque le nom du Seigneur plus de 1000 fois par jour. Et encore un autre point qui est important, une eau salée. Savez-vous pourquoi les eaux deviennent salées? Le savez-vous? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un le sait? quelqu'un s'est posé la question? Ah, parce que rien ne ressort. Oui, il y a beaucoup qui sort, mais rien qui ne ressort. Et alors, il y a beaucoup d'eau qui s'évapore, mais il n'y a pas cet équilibre. En fait, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a que de l'eau qui rentre, des choses qui rentrent, L'eau s'évapore, mais le sel s'accumule. Et la saleté, et les substances qui sont versées dans l'eau. Mais nous, nous ne voulons pas être des eaux salées. Nous avons une ouverture. Nous pouvons laisser s'écouler quelque chose. Nous pouvons invoquer le nom du Seigneur. Cela nous guérit. Amen.